9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et on prend soin de votre santé tous les jours, entre 9h et 10h sur Beurre FM. Et vous le savez, c'est Octobre Rose qui est le mois consacré au dépistage du cancer du sein. Nous allons en parler ce matin, mais nous allons plus précisément parler de la prise en charge du cancer du sein chez la femme jeune. Alors c'est vrai que les messages de santé publique nous avaient habitués à associer cancer du sein avec des femmes plus âgées, c'est-à-dire à partir de plus de 50 ans. Je reçois ce matin le docteur Jessica Sels. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes cancérologue, alors on dit oncologue maintenant.
Oui, en vrai c'est la même chose.
C'est la même chose, mais c'est vrai que de plus en plus le terme d'oncologue commence à remplacer celui de cancérologue. Radiothérapeute à Jussigny, c'est au sein de l'hôpital de Marne-la-Vallée, à deux pas du centre commercial de Val d'Europe. Et votre établissement est ce qu'on appelle un établissement à la pointe en termes de traitement du cancer, parce que vous avez investi dans plein de machines.
Et de nouvelles techniques, tout à fait.
Mais ce qui veut dire que le traitement du cancer aujourd'hui c'est quelque chose qui devient de plus en plus technique.
Alors, il y a les deux.
Parce que j'ai regardé, par exemple, vous avez investi dans une machine qui fait de la radiothérapie, qui arrive à aller vraiment au plus proche de la zone à irradier.
Oui, c'est la radiothérapie stéréotaxique. Et effectivement, c'est la troisième machine qu'on vient d'acheter. Je pense qu'après, dans la prise en charge du cancer, il y a l'aspect technique et il faut être à la pointe et pour apporter les meilleurs traitements en termes de toxicité. Il n'y a pas que ça.
Je me dis que quelqu'un qui va être pris en charge dans un établissement, quand on parle du cancer, c'est rassurant d'avoir les machines les plus modernes d'une certaine façon.
Je pense que ça veut dire qu'on sait qu'on aura les meilleurs traitements possibles et ça, effectivement, c'est important. Il faut que ça soit adapté, mais il faut que s'il y a un traitement qui est le plus adapté qu'un autre, il faut qu'il soit à disposition pour le patient, tout à fait.
En 2018, donc c'est-à-dire cette année, on estime que 10% des femmes de moins de 40 ans sont touchées par un cancer du sein. Est-ce que, dans votre pratique, vous avez l'impression que les femmes qui viennent pour un cancer du sein sont de plus en plus jeunes aujourd'hui ?
Oui, honnêtement, on voit de plus en plus de femmes jeunes avec un cancer du sein. Et ça, je pense que c'est une réalité de notre quotidien.
Ce sont des cancers rares, mais dont le nombre augmente. C'est ça que ça veut dire?
Exactement. Ça reste heureusement pas la majorité, mais il y en a de plus en plus. Et donc, il faut qu'on s'adapte pour leur prise en charge.
Et c'est ce que vous faites, vous, au sein de votre établissement?
Oui.
Est-ce que ça veut dire que le traitement du cancer du sein de la femme jeune demande une prise en charge spécifique?
Alors, en fait, il se traite comme les autres cancers du sein, sauf que c'est souvent des cancers qui sont plus agressifs, donc qui demandent souvent des chirurgies plus larges, où il y a plus d'indications de chimiothérapie. Donc ça, c'est pour la prise en charge oncologique elle-même. Il y a tout l'aspect oncogénétique, oncofertilité. Enfin, il y a quand même vraiment des spécificités de la femme jeune à prendre en charge. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est une femme jeune et il faut essayer de faire en sorte de prendre en charge tout l'aspect social qu'il peut y avoir avec.
Même si, quel que soit l'âge à laquelle on vous annonce une maladie, ça reste un choc.
Oui.
C'est vrai que quand on annonce à une femme d'âge entre 30 à 40 ans qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, elle vient peut-être d'être mère ou elle envisage d'avoir des enfants, elle se projette à plein si elle travaille dans sa vie professionnelle. Voilà, donc c'est le choc est peut-être différent, vous le constatez, ça?
Oui, c'est pour ça qu'on a travaillé d'ailleurs pas mal ces derniers mois sur la notion de double peine, c'est-à-dire que on vous annonce, vous avez un cancer, il va falloir vous traiter, mais en plus de ça, il va falloir faire en sorte que ça rentre dans votre quotidien, sachant que la journée vous travaillez, le soir vous avez les enfants, et il va falloir vous arranger pour pouvoir vous traiter en plus. Et c'est vrai que je trouve que c'est une difficulté supplémentaire, et souvent ce que je leur dis, vous n'êtes pas punis, donc après à nous de vous aider. Pour faire en sorte que si vous voulez continuer à travailler, si vous voulez continuer à vous occuper de vos enfants, tout ça se passe bien. Parce que vraiment, je trouve que c'est une difficulté qui vient en plus.
Vous parlez vraiment, vous, clairement, de double peine pour ces femmes plus jeunes.
Après, quoi qu'il se passe, c'est une difficulté. Ouais. On ne peut pas le nier, mais je trouve que c'est souvent l'âge où on est hyperactive, où souvent on commence on débute dans la vie professionnelle, ou en tout cas c'est le moment peut-être où on a le plus de projets, de choses qui vont du fait de l'âge on va vers l'avant, et c'est comme si il y a quelque chose qui nous réfrène, et c'est pas juste il faut faire en sorte que ça se passe le mieux possible et qu'elles puissent mener leurs projets, parce que ça, pour moi, ça fait vraiment partie du processus de guérison et de réintégration par la suite. Donc il faut surtout pas que ça soit une barrière supplémentaire.
Et quand vous dites que vous vous adaptez, c'est-à-dire comment est-ce que l'hôpital s'adapte à une population de femmes qui est plus jeune, de plus en plus jeune?
Déjà, ce qu'on leur dit, c'est que pour celles qui veulent continuer à travailler, il y en a quand même régulièrement, on essaye de faire en sorte de s'adapter au niveau des horaires. Donc on a des horaires de traitement qui sont assez larges. On commence à 7h30, 8h le matin et on va jusqu'à 20h, 20h30 le soir. C'est non-stop les traitements.
Donc si elles veulent venir... C'est pour quel type de traitement, Jessica Celt?
Alors, c'est pour tous les traitements. Honnêtement, là, on parle plus dans le cadre d'Octobre Rose, du cancer du sein et de la femme jeune, mais de façon générale, tous les patients qui veulent continuer à travailler et être traités, on s'adapte au niveau des horaires et on leur demande pour essayer de faire en sorte qu'ils aillent travailler et qu'ils viennent faire leur traitement en même temps.
Ça va peut-être interpeller certaines personnes qui ont été suivies et à qui on a imposé des horaires très précis et qui avaient du mal à maintenir une vie active, professionnelle, avec le traitement.
Après, je pense que on essaie de s'adapter au mieux. Je dis pas qu'il y a peut-être
c'est pas précis, si,
Mais en tout cas, ça fait partie des choses où on leur dit au moment du scanner de préparation de traitement, si vous avez des exigences horaires, dites-les nous et on essaiera de faire au mieux pour pouvoir les respecter.
La prise en charge spécifique, qu'est-ce que ça fait d'arriver de voir arriver des femmes plus jeunes? Est-ce que finalement, ça change votre façon de traiter l'ensemble des cancers, de voir arriver des femmes plus jeunes ou pas?
Je pense que le cancer lui-même, on le traite de la même façon, mais je pense que vraiment, on prend en charge avant tout un individu, donc il faut qu'on prenne en charge ses spécificités. Donc c'est ce qu'on disait, chez les femmes jeunes, il y a plus de cancers d'origine génétique, donc il faut qu'on ait le réflexe de plus les adresser pour les consultations génétiques.
On en parlait samedi dernier, là aussi, ce sont des cancers rares, mais on voit que la recherche avance beaucoup sur ces cancers génétiques.
Oui, mais en fait, les femmes de moins de 35 ans, voire de moins de 40 ans pour certaines formes de cancers, on doit se poser la question et voir les adresser systématiquement pour une consultation de génétique, voir s'il n'y a pas des mutations associées. Après, il y a tout l'aspect aussi fertilité, parce que c'est indéniable, il y a potentiellement un rôle sur la fertilité de la femme, c'est-à-dire sa possibilité d'avoir des enfants ultérieurement. Donc, c'est des choses qu'on doit aborder avant la prise en charge pour pouvoir l'anticiper. Ça se fait pas après s'il y a un problème.
C'est-à-dire que techniquement se pose la question de savoir si vous voulez avoir des enfants après le traitement, c'est
complètement.
Ça
complètement. C'est pas à coup sûr, il y aura pas forcément un problème de fertilité, mais c'est quelque chose de possible et c'est variable d'une patiente à l'autre. Donc c'est fait partie des choses qu'on doit aborder et qu'on doit anticiper avant de faire la chimiothérapie. Tout à fait. Ouais. Mmh. Et l'hormonothérapie, c'est un projet de vie qu'on doit anticiper dans le cadre de la prise en charge.
Les femmes et en règle générale tous les patients à qui on annonce qu'ils ont une maladie comme un cancer sont un choc et peut-être ne pensent pas à poser toutes les bonnes questions, enfin en tout cas toutes les questions tellement ça les chamboule à ce bon moment-là. Quand vous dites on aborde ces questions, c'est-à-dire vous les abordez à quel moment?
C'est une réelle difficulté. C'est-à-dire que c'est vrai que lors de la première consultation, il y a d'abord, il y a des choses qui ont été dites, on les redit. C'est-à-dire qu'on évalue déjà s'ils sont bien au courant qu'ils ont un cancer, le stade de la maladie.
On aborde. Est-ce qu'on leur dit aux gens, vous avez un cancer? Moi, j'ai quand même pas mal de gens autour de moi à qui on prononçait pas forcément le mot.
Alors, je sais pas pour tout le monde. Moi, personnellement, je commence toujours par leur demander ce qu'ils savent. Et après, c'est un mot que j'essaye, autant que ce soit. Faire ce peu d'employés, parce qu'il faut quand même. C'est quand même une maladie grave, qui est une maladie qui est chronique, avec des traitements lourds. Donc je pense que il faut en avoir conscience. Et c'est pas forcément négatif. Si derrière il y a un projet de soins et un projet de vie, la maladie elle est là, il va falloir faire avec et il faut avancer. Donc il faut qu'ils soient au courant, quoi. Je pense qu'on peut pas le cacher.
Il faut le dire, il faut poser des mots.
Oui. Je pense que ça fait prendre conscience de pas mal de choses et justement que ça leur permet de se recentrer sur les choses les plus importantes et ça n'empêche pas que il y a toute la prise en charge qui doit découler derrière et par contre il faut apporter les deux, c'est-à-dire que il y a pas une consultation où on leur dit juste vous avez un cancer puis on vous voit dans une semaine on vous dira ce qu'on fait, ça c'est pas possible par contre. Il faut leur dire mais les rassurer derrière et leur donner un réel projet derrière, je pense.
Vous parliez de double peine sur les femmes qui sont jeunes, il y a aussi cette notion d'injustice finalement. Quand vous êtes jeune, en disant, oui, finalement, pourquoi moi? Les gens veulent essayer de comprendre pourquoi ils sont tombés malades, alors qu'en général, ça arrive sur des femmes qui sont beaucoup plus âgées.
Oui, je pense qu'il y a ça. Il y a souvent le fait que ça arrive, c'est jamais le bon moment, mais peut-être il y a des projets en cours qui font que c'est encore plus difficile. Et on se dit, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? C'est pas juste, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a... Après, c'est la vie, mais il peut tout à fait y avoir un sentiment d'injustice... Et c'est ça qu'il faut travailler pour pas qu'il n'y ait pas de culpabilité derrière. Il y a vraiment quelque chose de spécifique par rapport à ça pour la femme jeune, je pense, oui.
Est-ce que vous vous interrogez, vous qui êtes sur le terrain et qui voient les patients peut-être de plus en plus nombreuses dans vos services, sur les causes qui font qu'aujourd'hui les femmes ont des cancers de plus en plus tôt? Est-ce qu'il y a des réflexions sur les causes qui peuvent venir peut-être de l'environnement, de la façon qu'on a aujourd'hui de se nourrir
Je pense qu'il y a un rôle, c'est clair que le mode de vie a changé, et je pense que ça peut en partie expliquer le fait qu'il y ait des cas plus fréquents chez les femmes jeunes. Après, il y a aussi peut-être, enfin, on travaille quand même pas mal sur le dépistage, la prévention, donc il y a aussi peut-être plus de cas qui sont diagnostiqués plus tôt, bien qu'on n'est pas dans la tranche d'âge du dépistage. Mais je pense que les habitudes de vie jouent beaucoup. Après, clairement, l'alcool, le tabac, on sait que ce sont des facteurs de risque maintenant reconnus. Il n'y a pas que la génétique, l'âge, l'imprégnation hormonale, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment le mode de vie qui joue.
Alors, l'alcool et le tabac, on le dit depuis longtemps, mais vous savez, maintenant, on parle beaucoup de la nourriture, de tous ces facteurs d'environnement, les déodorants.
Oui, alors il y a quand même moins de données.
Parce qu'on l'entend, effectivement, de plus en plus.
Ça, je pense qu'il y a moins de données là-dessus. Après, on ne peut pas l'écarter totalement non plus. Enfin, je pense qu'on ne sait pas encore assez. Mais après, pour l'alcool et le tabac, je trouve qu'on n'en parlait pas autant que ça pour le cancer du sein avant. Mmh. Et ça commence à ressortir maintenant. C'était plus clair pour le poumon, les cancers ORL. C'était moins clair, je trouve, pour le cancer du sein. Je trouve que c'est une donnée qui passe plus maintenant, mais qu'on avait moins avant. Enfin, l'impression.
Comment est-ce que les femmes qui ont des cancers, qui sont jeunes, des cancers du sein, qui ont entre 30 et 40 ans, et même des femmes de la fin de la vingtaine qui contractent des cancers du sein, sont-elles dépistées finalement? Puisque comme elles sont en dehors des cancers, des campagnes de dépistage, est-ce qu'elles viennent dans le cadre d'un dépistage dit individuel ou
Il y a soit dans le cadre d'un dépistage individuel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un risque, soit familial, soit il y a des maladies bénignes, enfin qui sont pas des cancéreuses, mais du sein qui font qu'on sait qu'il y a plus de risques, donc il faut les surveiller. Donc il peut y avoir ça. Et puis après, il y a aussi le cas où on va les dépister parce qu'on sent une boule ou quelque chose au niveau du sein. Et c'est ça le problème, c'est que souvent, du coup, le diagnostic est fait plus tardivement que dans le cadre du dépistage.
Et dans ces cas-là, quels sont les examens qui permettent de révéler? Est-ce que la mammographie est adaptée à ce genre de dépistage ou pas?
Alors,
du tout?
Si, il y a la mammographie, on coupe souvent l'échographie parce que les seins sont plus denses chez les femmes jeunes. Donc la mammographie seule souvent ne suffit pas. Et facilement, on fait aussi des IRM chez les femmes jeunes. D'abord, c'est moins irradiant et ça permet d'avoir des données complémentaires pour les femmes jeunes.
Est-ce que ça amène finalement à revoir les campagnes de dépistage, de l'augmentation des femmes jeunes ou de la façon dont on surveille les seins des femmes aujourd'hui ou pas?
Je pense qu'en tout cas, il faut y réfléchir. Et là, il y a une étude justement menée par Unicancer et à l'initiative européenne qui est dirigée par le docteur Suzette Delaloche qui est avec Gustave Roussy et qui rentre dans le cadre de cette étude les patientes à partir de 40 ans. Donc, parce que clairement, aujourd'hui, entre 40 et 50 ans, souvent, on fait une mammographie.
Il y a un vide.
Et là, en fait, ils évaluent le risque du cancer du sein en fonction de l'âge, des antécédents. Je crois qu'il y a un test génétique aussi. Ils calculent un risque et en fonction de ça... Il y a un rythme de dépistage qui est différent. Enfin, il y a deux bras. Il y a le bras dépistage classique et le bras dépistage adapté. Donc, clairement, voilà, il y a des études qui se mettent en route et qui essayent de faire un dépistage plus adapté, personnalisé et plus simplement le dépistage de masse comme on voit.
Comme on le voit aujourd'hui. Oui. Donc, finalement, qu'il soit plus personnalisé en fonction de l'histoire du patient,
exactement.
C'est ça?
Et en fonction de son risque, du coup, génétique individuel, enfin, à lui-même, oui.
C'est le mois d'octobre rose. Est-ce que vous trouvez que les messages aujourd'hui sont adaptés aux femmes? Et quand je dis adaptés, est-ce qu'ils sont suffisamment clairs?
Alors déjà, je trouve que, enfin, on parle beaucoup beaucoup du dépistage, mais ce qui est bien, hein, parce que c'est comme ça aussi qu'on déteste des cas plus tôt. Après, je trouve que justement les messages peut-être ne passent pas assez. C'est-à-dire que nous, on le voit au niveau des services. Je trouve pas que dans la rue, à la télé, ça passe tant que ça. Je pense qu'il faudrait peut-être faire des choses qui interpellent un petit peu plus, mais qui fassent penser aux femmes quand elles passent dans la rue, tiens, j'ai pas fait ma mammographie depuis 2 ans, il faut que j'y aille, enfin des messages un peu plus forts. Nous, on le voit beaucoup dans les services, mais je trouve que c'est pas la même chose pour tout le monde.
C'est-à-dire parce que dans les services, c'est affiché, parce que vous êtes...
Parce qu'on l'affiche, parce qu'on fait des décorations, des activités, enfin voilà, pour essayer d'apporter quelque chose en plus, mais c'est pas forcément, je trouve, le message qui passe bien partout. Parce qu'avant tout, c'est les patientes de tout venant et qui sont touchées. Je trouve que c'est un message qui passe peut-être pas justement assez partout.
Le docteur Jessica Seltz est notre invitée ce matin. J'appelle que vous êtes cancérologue, radiothérapeute à Jossigny. C'est au sein de l'hôpital de Marne-la-Vallée. On parle du cancer du sein de la femme jeune, c'est-à-dire la femme qui a moins de 40 ans. Si vous voulez témoigner, peut-être le standard est à votre disposition. 01 53 48 3000 et puis on verra techniquement. Alors vous avez écrit un livre pour les enfants que je trouve très très bien fait puisque ça répond à beaucoup de questions d'enfants. 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et mon invité ce matin, c'est le docteur Jessica Seltz, qui est cancérologue et radiothérapeute à Jossigny au sein de l'hôpital de Marne-la-Vallée. On parle du cancer du sein de la femme jeune aujourd'hui, encore rare mais en augmentation puisque 10% des femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein le font avant l'âge de 40 ans. 01 53 48 3000, vous pouvez également témoigner, poser vos questions ce matin, direction la ville rose, Toulouse. Et c'est Basma qui est avec nous. Basma, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Basma.
Oui, bonjour. Bon, ben voilà, je vous appelle aujourd'hui parce que bon, j'ai eu un cancer à 34 ans.
Oui.
Et trois enfants en bas âge. Donc ça a été assez difficile. Et puis un avortement en plus parce que j'étais enceinte du quatrième.
Vous avez été diagnostiquée au moment où vous étiez enceinte, Basma, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça, tout à fait ça. Et donc assez difficile, bien sûr. Une épreuve très dure à surmonter, mais bon, je voudrais quand même remercier l'hôpital de Chambéry parce qu'ils ont été vraiment super. Ils m'ont vraiment super bien, j'ai été très 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 bien soignée à Chambéry, donc à Medipôle de Chambéry, et ça c'était super.
Parce qu'on dit toujours quand ça marche pas, quand ça fonctionne pas, mais il faut aussi dire quand ça fonctionne et que c'est bien, hein, Basma.
Oui. Ah oui, oui, oui. Surtout, je remercie surtout le docteur Mille et le docteur Tarif, les oncologues et le cancérologue, qui m'ont vraiment soutenue. Ça a été vraiment exceptionnel, quoi. Et puis ma famille, surtout. Quand on dit qu'il y a 70% de la guérison, c'est l'entourage, c'est vraiment 70% de la guérison, l'entourage.
Ouais. On parlait, Basma, tout à l'heure, si vous écoutez l'émission, de la double peine qui touche ces femmes qui ont moins de 40 ans, qui subitement sont diagnostiquées avec un cancer et qui doivent se soigner alors qu'elles sont mères de famille, qu'elles travaillent. Vous, est-ce que vous avez réussi à avoir des aménagements? On veut dire, vous travailliez à l'époque ou pas, Basma?
Alors, je travaillais, mais j'étais en fin de contrat et je devais reprendre, en fait, j'étais agent thermal. Donc, pendant la saison haute, bon, je travaillais. En hiver, je ne travaillais pas et je reprenais. Et en fait, j'attendais. J'ai eu les deux nouvelles en même temps, le fait qu'on me reprenait au terme et le cancer. Donc voilà, ça a été ça. Mais bon, faut dire que moi, mes aménagements, je suis restée un an chez ma mère.
Ah voilà. Oui, d'accord.
Mes enfants sont restés avec mon mari à la maison et moi, je suis restée un an chez ma mère.
D'accord. Voilà. Pour vous soigner et pendant les soins, c'est ça?
Pour me chouchouter, me soigner, me dorloter, tout ce que vous voulez, en fait. Ça a été un an difficile, mais en fait, grâce à la famille, on peut remonter sur ça. Voilà.
Mais est-ce que vous pensez, avec du recul, que vous auriez pu confronter votre vie de maman, vous soigner? Enfin, vous voyez, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu faire, Basma?
Toute seule, sans l'aide de la famille, sans l'aide... non, je pense pas. Ça aurait été très difficile avec trois enfants. Mon dernier, il avait 3 ans. Et ma première, elle avait 8 ans. Donc, après, voilà, c'est assez difficile. Par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est pour moi, c'est que je n'ai rien caché à mes enfants.
Oui. C'est-à-dire, voilà. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement, Basma?
Ben, en fait, ma fille, c'est d'abord ma fille qui s'en est rendue compte. Enfin, je ne voulais rien dire et puis elle commençait à avoir des spasmes au niveau de son ventre. Et j'habitais pas loin de l'hôpital, en fait, l'hôpital de Chambéry. Et à minuit, j'ai emmené ma fille à l'hôpital. On est parties à pied toutes les deux parce que ça valait pas le coup de prendre la voiture. Et en fait, ils ont rien trouvé. Ils ont vraiment rien trouvé.
Sur votre fille, hein?
Ma fille, oui, oui. Ouais. Et à 2h du matin, en fait, on redescendait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ma fille m'a regardée et elle m'a dit, maman, il y a quelque chose qui ne va pas.
Elle avait quel âge, votre fille?
Elle avait 8 ans.
D'accord.
Elle avait 8 ans. Elle m'a dit, maman, je sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, en fait, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, maman est enceinte. Par contre, on lui a découvert une maladie qui peut être grave. On ne sait pas encore le diagnostic. Il va peut-être falloir enlever le bébé ou peut-être que, voilà. Voilà. Et en fait, elle a accepté la chose. Mmh. Et elle m'a dit, maman, il faut parler à mes frères.
Ouais.
Alors, ce que je fais, c'est que mon fils avait une orthophoniste qui s'occupait de lui, qui venait à la maison. Et ben, on a décidé de prendre des livres, que l'orthophoniste leur lise les livres pour enfants concernant le cancer de maman est malade. Et là, en fait, ils ont très bien pris la chose. Après, je suis revenue dans la salle à manger où l'orthophoniste leur lisait le livre une fois qu'ils avaient discuté entre eux. Et là, on a permis à mes enfants de me poser toutes les questions possibles.
D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vous ont posé comme question, Basma, vos enfants?
Alors, moi, mon fils m'a demandé si j'allais mourir.
Ouais.
Alors, je lui ai dit, je ne sais pas encore. On ne sait pas, on verra. Maman va se soigner, c'est la première chose à faire, je lui ai dit. Mm-hmm. Par contre, j'avais des cheveux très très longs. Là, on a parlé comme quoi j'allais perdre mes cheveux.
D'accord.
Mon fils m'a dit, je me rappelle une anecdote, c'est que il restait un yaourt dans le frigo, enfin le frigo était plein, mais il restait un yaourt, et puis je fais, qui c'est qui a mangé mon yaourt? Et puis mon fils, c'est moi. Je fais, t'aurais pu me le laisser, c'était le mien. Parce que je pouvais pas en manger, enfin, comme j'avais des goûts et des trucs comme ça, je pouvais pas manger autre chose. Il m'a dit, maman, si je t'aurais laissé le yaourt, tu t'aurais guéri.
Voilà.
Et puis, j'ai mon autre fils qui me fait, je lui avais dit que, en fait, mes cheveux repousseraient pour son anniversaire. Parce que lui, il était né au mois de juillet et que je finissais les chimios au mois de juillet, en fait. Et puis, quand c'est venu son anniversaire, eh ben, j'avais pas encore de cheveux. Et puis, maman, tu m'avais promis que tes cheveux pousseraient pour son anniversaire. Oui, des petites anecdotes comme ça, mais bon, après...
Mais pour vous, finalement, c'était important de pouvoir en parler en toute transparence avec vos enfants.
Oui, oui, parce que je pense qu'ils n'auraient pas compris sinon pourquoi maman, elle allait bien, elle rentrait à l'hôpital et puis ouais. Elle revenait malade.
Ouais, ils auraient senti quelque chose qu'on ne leur disait pas, ou un secret, ils auraient exagéré.
C'est ça, ouais. C'est tout à fait ça. Voilà, oui, oui, mais c'est... Voilà, c'est une épreuve. On a toujours l'épée Damoclès sur la tête, mais voilà, Inch'Allah que Dieu nous préserve. Bon. Voilà.
Mais vous insistez quand même sur l'importance aujourd'hui de la présence de la famille, Basma. Que c'est une maladie, mais c'est une épreuve qui est collective et qui implique tous les membres de la famille.
Je vais même vous dire quelque chose.
Oui.
C'est ma famille qui a été plus malade que moi. C'est ma famille qui a été beaucoup plus malade que moi. Moi, j'ai appris la chose, je l'ai acceptée, j'ai hurlé, bien sûr.
Quand vous dites j'ai hurlé, c'est une image ou vous avez vraiment hurlé?
Non, j'ai vraiment hurlé en pleine rue. Hein.
Faut que ça sorte.
Ouais, c'est sorti. Ah, oui, oh, mais c'est sorti.
Ah oui, oui, c'est sorti. J'ai vraiment hurlé, mais de toutes mes forces en pleine rue. Hein. J'étais en pleine rue, j'hurlais quand j'ai eu la nouvelle. Hein. Mais je hurlais, j'étais à genoux. Voilà, j'étais même pas chez moi, j'étais en pleine rue. Mmh. Ah oui. Après, j'ai vu mes enfants j'ai mis mes enfants et Dieu entre mes yeux et puis on a dit on y va.
On y va.
On y va.
On se bat.
Voilà, on se bat pour mes enfants et puis pour avoir un avenir avec eux en fait. Mmh. C'est ça. C'est tout à fait ça. J'ai pas cherché midi à 14h. Par contre, ma famille, oui, j'ai ma sœur, elle a fait une ménopause à 30 ans.
Ah ouais.
Par le choc.
Ah oui.
Voilà. Voilà. Ma mère, quand elle a appris, je vous assure qu'on aurait dit quelqu'un qui n'avait plus de. Enfin, elle était complètement désemparée, quoi.
Je pense que pour les aidants, il y a parfois justement un sentiment d'injustice ou de fait qu'ils puissent pas agir, qui font que ça les mine et qui peut être difficile, ouais.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà.
Masma, merci d'avoir partagé votre expérience et vraiment de la confiance que vous nous faites pour
Je trouve que c'est important. C'est l'entourage. L'entourage fait presque 70% de la guérison. Puis les médecins sont excellents. Maintenant, on est à la pointe de la médecine et il faut faire confiance à ces médecins. Je pense que c'est hyper important. En passant tout le corps médical, c'est vraiment. Franchement, je leur dis chapeau à tout le monde et voilà, j'espère. Et ça, ça vient du fond du cœur. C'est vraiment le corps soignant, chapeau.
Il faut leur rendre hommage.
Il n'y a rien au hasard, mais tout, la psychologie, ils nous aident au mieux, même les enfants, les parents, tout le monde, on est tous aidés. Et ça, c'est vraiment chapeau.
Masma, on vous fait un gros bisou.
Merci
à vous. Merci. Au revoir pour votre
témoignage. Alors, Jessica, vous avez écrit un livre. Enfin, en tout cas, vous avez fait les textes d'un livre qui s'appelle La radiothérapie des parents expliquée aux enfants.
Oui.
Quel est l'objectif de votre livre ?
En fait, je trouve que justement, face à ce constat qu'on avait de plus en plus de jeunes patientes, on s'est rendu compte qu'il y avait des textes sur la radiothérapie, il y en avait sur la chimiothérapie, parfois expliqué aux enfants, il y en avait pour la radiothérapie des enfants, mais par contre, il y avait vraiment un vide pour expliquer aux enfants ce qu'était la radiothérapie pour leurs parents. Et c'est ce que soulignait Besma, je pense que des enfants qui sont informés, ça les rassure. Du fait qu'ils soient rassurés, eux se sentent mieux et ils peuvent être de plus en plus, plus faciles à gérer, même pour les mamans ou pour les papas, et ça c'est important. Et y avait un vide pour l'explication de la radiothérapie. Je trouve qu'on on pouvait pas leur expliquer pourquoi maman tous les jours allait à l'hôpital, pourquoi elle revenait, pourquoi parfois elle était fatiguée. Et donc c'est pour ça que, comme c'est des questions qui venaient de façon récurrente, comment je vais leur dire, qu'est-ce que je vais leur dire, mais comment je vais faire pour elles, et c'était pour vraiment répondre à ce vide, parce qu'il y a ce qu'on leur disait, mais c'était une façon de le mettre un petit peu par écrit et que ça soit plus formalisé. Après, j'ai pas la recette, je l'ai écrit comme moi.
C'est
je
une BD, il y a des dessins, c'est pas un livre.
Mais c'est que ça a retranscrit ce qu'on leur disait nous en consultation et comment nous on aurait aimé le dire si ça nous arrivait, quoi.
Mais ce que disait Besma, c'est qu'elle est passée elle aussi par un livre, voyez, donc peut-être que le livre ça peut être un outil pour pouvoir le dire de façon pour amortir le
je pense
le
que coup. D'abord ça ouvre le dialogue, parce que se retrouver face à face avec la personne, ça peut faire peur, aussi bien aux enfants qu'aux parents. Donc déjà c'était plus facile avec des images, il y a des notions qui passent mieux, ça fait peut-être moins, enfin ils prennent la conscience de l'importance des choses, mais ça fait moins peur avec des dessins assis à côté de maman, on leur explique, enfin voilà, il y a tout un contexte autour qui peut faire mieux passer le message, mais le message il faut qu'il passe,
Il faut penser que les enfants comprennent tout, il y a pas besoin de leur dire, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux leur dire.
Et puis, ce qui est anxiogène pour eux, c'est vraiment le fait de ne pas comprendre. S'ils comprennent, il ne faut pas leur cacher. C'est grave, c'est chronique, ça va être long. Mais bon, c'est comme
c'est
ça.
Mieux maintenant, on se bat ensemble. C'est mieux que de faire comme si rien n'était.
Exactement. Typiquement, le cas des douleurs abdominales au début, c'est vraiment, il y a une angoisse qu'elle somatisait parce qu'il y avait.
Elle comprenait que.
Mais elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle voyait quelque chose qui n'allait pas, quoi.
On le trouve où, votre livre ?
On le trouve sur notre site, il est téléchargeable, et après c'est vrai qu'on avait, aux médecins en tout cas de la région, on l'avait adressé en leur disant que s'il y avait besoin d'autres exemplaires, on le mettait à leur disposition. Et on a pris contact avec pas mal d'hôpitaux, de centres, pour leur mettre à leur disposition s'ils veulent en commander.
Pour toutes celles et ceux qui voudraient le télécharger, aujourd'hui on le trouve sur quelle adresse ?
Donc c'est www.icsm77.com, et il est téléchargeable directement sur le site en PDF.
C'est un bel outil, le docteur Jessica Cassel, c'est notre invité cancérologue et radiothérapeute. On parle des cancers du sein de la femme jeune à l'occasion d'Octobre Rose. Vous pouvez, comme l'a fait Besma ce matin, témoigner au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et nous parlons ce matin du cancer du sein de la femme jeune, celle qui a moins de 40 ans, avec le docteur Jessica Sels, qui est cancérologue, radiothérapeute à Jossigny au sein de l'hôpital de Marne-la-Vallée, pardon, à deux pas du centre commercial de Val d'Europe et l'Institut de cancérologie de Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne a mis en place une nouvelle approche de soins et justement pour l'adapter à ces femmes qui ont moins de 40 ans. Hein. Alors nous avons Sana qui est avec nous, Sana qui nous appelle de Toulouse. Sana, bienvenue.
Oui, bonjour, bonjour. Merci. Bonjour au docteur, bonjour. Spécialiste en oncologie. C'est un peu tout fait, moi, donc... on m'a décelé donc un carcinome intracanalaire, donc un cancer du sein au mois de mars. Mm-hmm. Donc, voilà, au mois de mars là. Je suis encore malade, donc voilà, je n'ai pas encore accepté le protocole. Voilà, décision que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Ça peut vous choquer à vous aussi et peut-être ceux qui vont m'écouter. J'ai eu une prise en main pour moi qui n'a pas été adaptée au niveau psychologique parce que dès qu'on m'a annoncé la maladie on m'a de suite sorti tout le côté négatif si vous faites rien vous allez mourir. Voilà, ça a été le premier jour où on m'a annoncé ça
on a sorti l'artillerie lourde là hein, pour vous
voilà, mais là c'est même plus l'artillerie là, c'était la guerre mondiale là, dans ma tête hein. Ouais. Donc c'était dur à encaisser, enfin, moi je l'ai accepté, mais la manière dont ça a été fait voilà, au niveau psychologie, après je comprends que c'est une maladie maintenant qui est entre guillemets banale, ils voient des cas tous les jours, ils ne peuvent pas s'amuser à prendre en considération la psychologie de chacun. Mais je trouve quand même que le côté psychologique est important pour qu'après, nous, on puisse accepter de se faire soigner correctement.
Alors attendez, parce que là vous nous avez dit, Sana, que vous n'aviez pas accepté le protocole, c'est-à-dire depuis le mois de mars.
Oui, j'ai rien fait encore.
Mais
rien fait encore.
D'accord.
Le protocole, moi, on m'a proposé le pack complet.
Oui, l'ablation, la totale.
La chimio. Voilà. Donc, voilà. Et j'ai eu plusieurs rendez-vous. Il y a eu plusieurs réunions multidisciplinaires où il y avait plusieurs spécialistes de chaque spécialiste de la chimio, spécialiste de la radiothérapie. Ils ont essayé de discuter avec moi, mais c'est toujours pareil, les termes utilisés, les manières fortes. Ça m'a plus braqué qu'autre chose, quoi, en fait.
D'accord.
Donc, mais... voilà.
Alors, vous dites les termes, c'est-à-dire parce qu'ils n'étaient pas adaptés, il fallait être Bac plus 20 en cancérologie pour comprendre.
Non, ça n'avait rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est le côté humain. Ça n'a rien à voir avec... moi, la maladie, je l'ai compris. Je ne fais pas de déni. Je sais que, je sais que ça peut être mortel. Voilà, après... après, la manière dont ça a été fait, c'est vrai que j'ai eu du mal à...
Ouais. Sur la forme, ça manquait d'empathie, on va dire, pour parler gentiment.
Voilà. On est un numéro et puis voilà. Voilà. Je suis désolée de le dire comme ça, on est un cobaye et puis voilà.
Mais vous n'avez pas voulu aller voir éventuellement une autre équipe dans ce cas-là?
J'ai pas trop de pistes. Après Toulouse, à part l'Oncopole où on m'a envoyé au début, moi quand je ne savais pas où aller, en fait, quand on vous annonce ça et tout, moi j'ai reçu, à la mammographie, il me dit madame. Je suis obligée de ne pas vous ménager, c'est très grave ce que vous avez et tout. Donc moi, je comprends, parce que c'est parti d'un ganglion sous les selles, moi, en fait.
Ah, oui.
J'ai le réflexe de m'auto-palper. J'ai trouvé suspect ce petit ganglion. Et donc, je suis partie consulter, et là, j'ai fait ma maman, puis on m'a annoncé ça. Donc, j'étais toute seule. Quand il me l'a annoncé tout, déjà, il n'a pas pris de pincettes. Donc, heureusement que j'ai un peu de morale. Il aurait pu avoir quelqu'un qui avait un moral très faible. Je ne sais pas, il peut se jeter dans... On ne sait pas, en fait... Mais c'est vrai que la manière dont est abordé la maladie, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai
alors, du mal. Hein, Sana, là, vous êtes avec nous et voyez, vous avez la gentillesse de nous appeler. Comment est-ce qu'on peut vous aider, nous, par exemple, Sana?
Moi, j'ai écouté le témoignage
de Basma. Oui, voilà. De Basma. Ouais.
Voilà. Et je respecte son choix et je lui dis bravo quoi, enfin pour le combat qu'elle a fait. Voilà. Et c'est vrai que moi les gens quand ils voient le choix que j'ai fait, que je crois en d'autres choses, en d'autres alternatives pour le moment, me prennent limite pour une dingue. Donc c'est délicat en fait. Autant c'est bien celles qui prennent le pas et qui foncent et qui font tout le traitement et tout à côté et tout. Voilà.
Mais quand vous dites les autres, à qui vous en parlez de ça, Sana?
J'ai des amis, après des amis, la famille. Bon, la famille, elle a du mal à accepter mon choix. La médecine tout court a du mal à accepter mon choix. Parce que rien que hier, j'ai vu mon médecin hier. Je suis sortie, elle m'a démoralisée. Donc à chaque fois, sortir les mêmes arguments, vous allez mourir. C'est pas la manière la plus douce, quoi. Enfin, moi, ça m'aide pas. On m'a pas expliqué la maladie correctement, en fait. Quand on me l'a annoncé, on me l'a pas expliqué correctement. On me dit, vous avez un cancer, mais vous avez pas un cancer. Donc c'était flou.
Parce que c'est une forme intracanalaire, hein, vous dites que vous avez, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Voilà. Okay. J'en ai un infiltrant et un, en fait, d'accord. C'était des micro-calcifications, en fait, qu'on m'a trouvé à la base. Voilà. C'était des micro-calcifications et on m'a dit que ça pouvait devenir un cancer. Donc par la suite, j'ai fait une biopsie. Mm-hmm. Ça s'est fait tout, c'est enchaîné en fait dans la foulée. La biopsie, elle m'a un peu traumatisée, mais bon, c'est passé maintenant. Donc ils m'ont fait le prélèvement, qui à ce jour m'a laissé des séquelles. La biopsie, moi, m'a laissé des séquelles. Je ne peux plus m'allonger sur le sein en question. Quand je lève le bras, j'ai mal. Ça m'a... Mais bon. Et puis là, la PASS a eu le résultat. Donc voilà, il y a la présence de deux cellules cancéreuses. Donc voilà, donc on ne sait pas si ça va se réveiller ou non, mais on me propose de vous faire l'ablation et puis tout le reste. Voilà. En fait, j'ai eu plusieurs sons de cloche. Je suis allée voir une autre gynécologue qui m'a dit, mais là, vous avez un cancer, mais vous n'avez pas un cancer. Donc en fait, j'ai pas eu de dialogue clair, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça.
Oui, c'est-à-dire que l'information, vous n'avez pas eu suffisamment d'explications sur votre maladie.
Voilà. On m'a secoué à droite à gauche, en fait. J'ai pas eu un seul fil d'actualité, en fait. Ça a été un coup on me dit ça, un coup on me dit ça, un coup. Alors,
Sana, aujourd'hui, concernant votre décision, c'est une décision qui peut évoluer. Si vous trouvez quelqu'un, un interlocuteur qui soit déjà à votre écoute et qui respecte votre choix, ou votre décision, elle est prise?
Pour l'instant, comme je disais, j'essaye d'autres alternatives. Et après, j'ai ma croyance aussi. Voilà.
Mais quand vous dites d'autres alternatives, vous voulez bien en parler avec nous?
Oui, après, c'est ce que tout le monde... Enfin, tout le monde. Après, c'est tout ce qui est dans l'homéopathie, enfin, l'homéopathie et tout ce qui est à base de plantes. Supprimer les sucres, supprimer beaucoup de...
D'accord. Donc, vous avez adapté un régime, un régime, voilà, adapté.
Comme le régime cétogène, je ne sais pas.
Oui, si cétogène, oui.
Voilà. Et après, il y a le moral aussi qui joue beaucoup. Moi, je prends ça comme si j'avais un rhume maintenant. Je le prends cool, quoi. Voilà. Mais je ne vais pas jouer longtemps. Et à un moment donné, si je vois que ça n'évolue pas, parce que j'ai un suivi régulier, si je vois que ça n'évolue pas dans le bon sens, je vais au moins faire
d'accord.
une ablation, quoi.
D'accord. Voilà.
Mais vous allez quand même pour être suivi régulièrement, du coup.
Oui, là, j'ai vu mon médecin juste hier. J'ai un contrôle à faire. J'ai eu du mal à avoir le contrôle parce qu'on m'a fait limite du chantage. Parce que je n'accepte pas le protocole et on me suit pas, en fait, dans mon chemin, quoi. C'est ou je fais ce qu'on me dit au niveau protocolaire, ou alors je peux pas vous donner des examens complémentaires, je peux pas vous donner des prises de sang. Voilà quoi j'ai droit, en fait.
J'ai
l'impression d'avoir un boulet aux jambes, pardon.
Vous savez quel âge?
J'ai 38 ans.
38 ans, on parlait des...
Voilà. Et il n'y a pas d'antécédents familiaux, pourtant, et pas de... J'ai allaité mes enfants, comme quoi on me disait l'allaitement pouvait empêcher ça, mais regardez, je suis un cas qui montre que ça peut arriver à tout le monde, quoi.
Ouais.
Donc voilà.
Écoutez, Sana, merci pour votre témoignage. Nous, vous voyez, on vous juge pas, on vous écoute, Sana. Et puis,
ça peut perturber du monde, et je m'en excuse.
Mais encore une fois, vous avez exposé clairement votre cas. Hein. Voilà, maintenant, ce que je vous demande, c'est tenez-nous informés, appelez-nous régulièrement pour donner de vos nouvelles, Sana.
D'accord, pas de souci. Merci de m'avoir écouté, et je m'excuse encore auprès des gens qui vont me dire, oui, on est en France, tu peux te faire soigner, tout ça, je le comprends. C'est un choix personnel, c'est pas une question d'être égoïste et tout, mais j'ai mon intuition, j'ai l'intuition des fois des femmes qui me dit qu'il faut pas que je me précipite et que je perde mon sein.
C'est votre croyance, Sana.
Voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est ma foi. Voilà, voilà. C'est perturbant hein, d'expliquer ça parce que en face de moi, c'est dur d'avoir des interlocuteurs qui comprennent mon choix parce que de suite, on me fait passer pour une dingue, quoi. Ah ben, elle veut pas se soigner, mais elle est dingue, c'est dingue, en fait, elle veut mourir. Voilà ce que j'entends à longueur de journée.
En tout cas, moi, Sana, je vous embrasse. Je vous fais un gros bisou. Ah,
merci, mais merci. Et puis, bon courage à toutes les dames qui affrontent ça en ce moment, quoi.
Merci, Sana.
Merci, au revoir.
Alors,
au revoir.
Par exemple, si on, aujourd'hui, vous, à l'ISM, vous proposez des séances, par exemple, d'accompagnement. Je regardais sur votre site, vous proposez des séances d'hypnose aujourd'hui. Comment est-ce que l'hypnose, ça peut accompagner les malades?
Alors, nous, on l'a mis en place pour deux choses. Déjà, il y a certaines indications hors cancer du sein où les patients ont la nécessité de mettre des masques, notamment pour les radiothérapies ORL ou cérébrale. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont claustrophobes et avec, pour lesquelles on avait du mal à mettre le masque. Donc, l'hypnose fait partie vraiment de l'accompagnement et de la préparation. Donc, elle les prépare, ils mettent le masque avec elle. Enfin, c'est vraiment, il y a tout un accompagnement. Et puis après, il y a toute la prise en charge aussi psychologique aussi autour de l'hypnose où ça permet, d'abord, il y a quand même un abord où ils vont parler. C'est pas des transes profondes, mais du coup, ça, quand même, ça les détend. Et, donc ça fait partie de l'accompagnement psychologique. Donc on a une hypnothérapeute qui vient une fois par semaine le mardi et qui accompagne les patients et qui les voit régulièrement par la suite.
Je voulais qu'on revienne sur les traitements, puisqu'avec Sana, il y avait cette question. Il y a différents traitements qui peuvent être utilisés pour traiter un cancer du sein. Qu'est-ce qui va déterminer le choix des traitements et est-ce qu'on explique suffisamment les objectifs des traitements avec des mots clairs aux patients?
Alors, ce qui va déterminer le choix des traitements, déjà pour la première question, c'est l'extension de la maladie elle-même et les caractéristiques de la maladie elle-même. Donc, par exemple, pour ce qu'elle parlait notamment de la mastectomie, c'est-à-dire du fait d'enlever le sein, ça va dépendre de la taille de la maladie et puis de la taille du sein et des caractéristiques de la maladie, si c'est une forme inflammatoire ou autre. Pour les indications de traitement, on dit systémiques ou généraux, donc chimiothérapie et hormonothérapie, ça dépend vraiment avant tout de l'extension aussi, notamment s'il y a des ganglions qui sont atteints, des lésions à distance, mais de l'agressivité de la maladie elle-même. Pour la radiothérapie, honnêtement, c'est quasiment dans tous les cas. On fait de la radiothérapie, c'est quand même très rare les cas où on ne le fait pas. Donc ça dépend vraiment de l'extension de la maladie.
Et mais puis, la radiothérapie, c'est quelque chose qu'on va retrouver le plus souvent comme traitement.
Oui, c'est rare. Il y a quelques cas où on ne le fait pas, mais ça reste rare.
Alors Victoria nous a rejoint en dernière ligne droite. Victoria, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien?
Parfaitement, Victoria.
Oui. Merci. Alors... je ne sais pas si c'est à moi de parler, je ne vous entends pas très très bien.
En tout cas, c'est à vous de parler, Victoria. Et d'accord. Comme on n'a pas beaucoup de temps, si vous avez quelque chose à nous dire, allez-y.
Voilà. Alors en fait, c'était juste pour vous dire que le témoignage des deux dernières dames, je pense que c'est juste, mais la dernière dame qui vient de parler, je suis vraiment compatissante avec elle parce que c'est arrivé à une de mes amies. Et en fait, elle a eu un cancer, elle avait à peu près 40 ans, un peu moins.
Oui.
Et quand elle a fait les examens et tout, elle a été une première fois soignée. Et après, il y a eu une petite récidive, quelques petites choses qui se sont greffées aussi. Et il y a une équipe qui lui a dit, bah, écoutez, on ne peut plus rien faire, de toute façon, vous allez partir. Dans le sens, vous allez mourir, quoi.
Ah, c'est ce qu'on lui a dit?
Ouais, c'est ce qu'on lui a dit. Et puis, c'est pas une dame qui se démonte comme ça facilement. Alors, elle a demandé son dossier et elle est partie voir une autre équipe.
D'accord.
Et l'autre équipe l'a pris en charge. Et là, ça fait plus de 15 ans,
elle est encore là.
Ouais, elle est encore parmi nous. Bon, bien sûr, elle se bat et tout. Mais c'est vrai que après quelques années de traitement, c'était un peu lourd pour elle. Elle a accepté un traitement un peu plus léger. Elle prend des comprimés dans la journée et elle n'a plus de traitement vraiment lourd. En fait, on peut dire qu'elle est guérie, quoi. Mais juste qu'il faut qu'elle fasse des contrôles. Mais c'est vrai que ce qui est embêtant actuellement dans les pays, industrialisés, c'est que quand il y a des grosses, des maladies chroniques, des maladies comme ça, en fait, vous avez certains médecins qui ne savent pas parler aux patients.
Oui.
Voilà.
On en revient, et c'est ce que disait Sana dans son témoignage, c'est que voilà, elle a été en contact avec des gens qui l'ont braquée, et elle le dit, dans la façon dont ils lui ont annoncé les choses, et dans la façon où on ne lui a pas donné le choix. Mais on a eu aussi Basma, qui d'un autre côté, vous voyez, Victoria était tombée avec une équipe formidable. Qui, voyez, donc, il y a tout qui existe.
Il y a de tout, mais sans être, sans tomber dans le pessimisme total, j'ai quand même, puisque moi je suis entourée de médecins dans ma famille, chez mes amis, ouais. Je suis entourée d'infirmières, donc, et puis d'infirmières qui travaillent dans les services d'oncologie. Mmh. C'est pas n'importe quoi. Hein. Je peux vous dire que quand même, on a parfois, dans les pays industrialisés, je parle, hein, après je n'ai pas vu dans les autres pays, je suis en train de mener mon enquête, mais dans les pays industrialisés, parfois, on a des médecins qui ne savent pas parler aux patients.
Bon.
Et c'est eux qui démoralisent,
oui, les patients. Alors que c'est vraiment pas leur rôle. Alors, Victoria,
voilà,
merci en tout cas de votre réaction. Alors, vous êtes nombreux à vouloir réagir. Alors après, le témoignage de Sana, c'est pas votre cas en tout cas, vous, Jessica.
J'espère pas.
Non, pas du tout.
Mais je pense qu'effectivement, l'annonce de la maladie, l'annonce même d'une récidive et l'annonce des traitements, c'est vraiment important. Enfin, il y a une relation de confiance qui se crée au début. Mmh. Et si le patient n'a pas confiance, ça ne peut pas marcher dans un sens et ni dans l'autre. Parce que voilà, nous aussi, on a besoin de sentir que le patient nous fait confiance pour qu'il y ait vraiment cette relation qui se crée. Quoi.
Oui, et notamment parce que c'est important, parce que c'est aussi un gage de guérison.
Oui, bah je pense que ça fait vraiment partie de la prise en charge globale, cette relation de confiance entre les deux, le patient et le soignant.
En tout cas, ce matin, vous nous avez expliqué que l'Institut de cancérologie de Seine-et-Marne, à Jussigny, a mis en place des nouvelles approches de soins et d'accompagnement des femmes actives, hein, des femmes de moins de 40 ans. Aujourd'hui, on rappelle quelles sont ces formes d'accompagnement.
Nous, on a pas mal travaillé, je vous le disais, sur les horaires de traitement. On a écrit le livret pour les enfants. On a mis en place l'hypnose. On a une association de malades aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que parfois le cancer met en difficulté sociale et financière.
Qui s'appelle Rayon Bleu, Rayon Bleu. Et c'est intéressant. Quel est l'objectif de votre association?
C'est vraiment une association dont l'objectif est d'aider les malades. Donc on a parfois payé un loyer, un toilettage pour un chien, une perruque. C'est vraiment des petites choses.
Il peut y avoir des difficultés financières, puisque la maladie a un visage financier aussi.
Oui, et c'est pas rare. Et donc du coup, je pense qu'elle n'est pas encore assez développée, donc on y travaille, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'aider vraiment les patients. Voilà, pour l'instant.
Jessica Seltz, j'étais heureux de vous rencontrer.
Merci.
Matin. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre à votre santé. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure, 11h midi, avec vos petites annonces.
Beurre FM, 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon.